les deux dernières soirées de ce cycle, raison et foi, Xavier Dufour nous a parlé de la foi, de la science et du mystère de l'homme. Et je vais essayer ce soir de vous parler de la prière, le titre donné à cette soirée étant « Pourquoi prier ?». Je vous propose que nous commencions tout de suite par lire un texte, le début de celui que vous avez sur l'une des deux pages que vous avez entre les mains, qui est le récit de la prière d'Anne au début du premier livre de Samuel, qui permettra donc, avant toute chose, d'entendre un premier texte de prière qui permet d'entrer dans ce dont il va être question. Je lis pas tout, je raconte l'histoire. Donc, il y a un homme qui a deux femmes, Anne et Pénina. Et Pénina a des enfants et Anne n'en a pas. Cet homme et ses deux femmes partent au sanctuaire de Silo pour prier en pèlerinage. Et Anne pleure et ne mange pas, nous dit le texte, parce que le Seigneur avait fermé son sein. Elle n'a pas d'enfant. Je lis à partir du verset 10. Elle était pleine d'amertume. Elle priait le Seigneur et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et elle dit « Seigneur, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit d'homme, alors je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait tout bas, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Alors Élie lui dit, « Jusqu'à quand vas-tu rester ivre? Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit ainsi, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée, je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne. C'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Élie lui répondit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Et la femme alla son chemin, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant le Seigneur, Anne et ses femmes s'en retournèrent et arrivèrent chez eux, à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Donc, premier récit d'une prière. Intéressant, je souligne un seul détail, ça se passe dans un sanctuaire, c'est une femme qui prie, et c'est un prêtre qui ne reconnaît pas que cette femme était en train de prier. Il croit qu'elle est ivre. Quelqu'un qui prie, il prie devant un autre qui est invisible, et donc on ne sait pas qu'elle est en train de prier. On a là un prêtre, normalement un homme de Dieu, qui est face à une femme. Il ne reconnaît pas que cette femme est en train de prier. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'il va falloir approfondir. Lorsque c'est moi qui m'adresse à vous, dans ce cycle, en 5 soirées, je vous propose un itinéraire qui nous amène à explorer ce que veut dire que Dieu parle, ce qu'est la parole de Dieu. Et à chaque fois, j'essaye d'allier une présentation d'un aspect de cette question, la parole de Dieu, et une proposition, une thèse, qui vient éclaircir un aspect de la recherche actuelle sur ce thème de la parole de Dieu. Il s'agit de travailler ensemble cette question dans le champ actuel de la théologie, qui est une question à la fois très travaillée et en même temps très ouverte encore aujourd'hui, la question de la parole de Dieu. le texte de référence dans l'Église catholique, c'est un texte du Concile Vatican II, la Constitution Dei Verbum, dont nous avons parlé au cours de la première soirée, en octobre dernier. Cette expression « parole de Dieu » est à la fois très employée aujourd'hui et en même temps récente. Jusqu'au Concile Vatican II, on parlait de révélation ou de vérité de foi. L'expression « parole de Dieu » était rare dans le langage de l'Église. Alors, quand on est face à un concept de théologique, il faut en faire l'histoire. Par exemple, le concept de révélation surgit dans le langage théologique au XVIe siècle, essentiellement avec le Concile de Trente, et c'est un concept, le concept de révélation, qui a une histoire, donc du XVIe siècle au Concile de Vatican II, avec un point où ce concept est le plus opérant au Concile Vatican I. Bon, les concepts théologiques ont une histoire. C'est le cas aussi du concept de parole de Dieu. Pour montrer que ce concept de parole de Dieu est aujourd'hui un concept central et qui permet d'ouvrir des questions théologiques, aujourd'hui, je vais en indiquer une, uniquement, sans la traiter ce soir. Peut-être la prochaine fois, on y reviendra. Qui est la question suivante, la parole de Dieu est-elle un sacrement ? Dans l'Église latine, et uniquement dans l'Église latine, nous s'est mis en place le septénaire sacramentaire, les sept sacrements, au XIIIe, XIVe siècle. Vous les connaissez, peut-être. Et parmi ces sacrements, il n'y a pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, la question de savoir si la proclamation de l'Écriture dans un cadre liturgique, à la messe par exemple, cette proclamation de la parole de Dieu a valeur sacramentaire, est un sacrement. Voilà une question aujourd'hui ouverte en théologie. Voilà un exemple pour montrer que la recherche en théologie est vivante. Nous poursuivons un parcours qui nous a amené à nous demander si Dieu est muet et qu'est-ce que veut dire que Dieu parle au mois d'octobre dernier. Dieu est parole, au commencement était la parole, dit le prologue de l'évangile de Jean, et nous n'avons accès à Dieu que parce que Dieu nous parle. C'est par la parole que Dieu nous adresse que nous accédons à lui. Seul Dieu parle bien de Dieu, dit Pascal, proposition reprise comme méthodologie par Karl Barth. Nous sommes tournés ensuite vers la Bible comme étant le lieu où se donne la parole de Dieu, au mois de novembre et décembre dernier. Dans un premier temps, j'ai donné des informations sur ce qu'est la Bible, puis je me suis demandé ce que voulait dire lire la Bible comme la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un acte de lecture spécifique de la Bible si on la considère comme parole de Dieu ? Et enfin, nous avons lu les trois premiers chapitres de la Genèse. C'est important pour aujourd'hui, ça va nous guider. Dieu parle, Dieu donne, Dieu s'adresse à l'humain, Dieu ouvre un dialogue avec l'homme. Dieu parle, Dieu s'adresse à moi, Dieu m'appelle, que lui répondre ? Au fond, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Que répondre à Dieu dans cet espace de dialogue qu'il ouvre en s'adressant à l'homme. Que faire de cela que l'on appelle la parole de Dieu ? Parole à la fois que Dieu est et que Dieu adresse. Pour penser cela, pour penser cette idée que Dieu est sa parole, mais qu'en même temps cette parole est adressée, les théologiens ont construit un modèle explicatif qui ne dit sans doute pas qui est Dieu, mais qui permet, si vous voulez, d'ajuster le viseur, de savoir dans quelle direction il faut chercher Dieu, et que les théologiens appellent la Trinité. Donc Dieu, je n'ai pas la prétention de savoir quelle réalité il peut bien y avoir derrière ce mot, mais il n'empêche qu'il appelle, et d'abord à l'existence. Dieu n'appelle pas un monde qui préexisterait, mais il appelle à l'existence un monde qui n'existe pas. Cette parole qui est Dieu précède toute existence. Nous l'avons vu dans le texte de la Genèse. Dieu est avant toute existence. La question de l'existence ou de l'être, comme disent les philosophes, n'est donc pas la question première. C'est peut-être la question première pour la philosophie, la question de l'être, Platon, Aristote, jusqu'à Heidegger, mais ce n'est pas la question première pour la théologie, ce n'est pas la question première lorsqu'on s'intéresse à Dieu. Et en conséquence, Dieu n'a pas besoin d'exister pour être Dieu. La question « Dieu existe-t-il » on pourrait y revenir dans les questions à la fin, la question « Dieu existe-t-il » est une question mal posée car elle ramène Dieu dans l'horizon de l'être. Dieu n'est pas une chose qui existerait, même si c'est la première et la plus éminente de toutes les choses. Bon, ou bien Dieu serait pourrait être l'être. Pour les chrétiens, Dieu n'est pas l'être, ça c'est l'horizon du sacré païen. Dieu n'a pas besoin d'exister pour être Dieu. Ce bureau a besoin d'exister pour être un vrai bureau, au moins d'exister dans mon imagination, mais Dieu, non. Dieu vient, surgit, et il appelle. Dieu est un Dieu qui parle, qui se communique librement à l'homme, et suscite l'homme comme son interlocuteur. Donc si on peut dire quelque chose de Dieu, c'est, on peut dire la chose suivante pour commencer, Dieu c'est l'espace ouvert de la parole. Dieu c'est l'espace ouvert de la parole. Dieu tel qu'il vient à nous, et si la réponse est la prière, il faut bien dire un mot de Dieu qui vient à nous. Si Dieu vient à nous, il ne vient pas à nous comme une chose. La manière, il vient pas à nous comme cette bouteille vient à moi, c'est-à-dire la manière dont ma conscience l'a saisie. Dieu vient à nous comme un événement. Donc Dieu vient pas à nous comme une chose, mais vient à nous comme un événement. Et le propre d'un événement, c'est de ne pas avoir été prévu. Parce que l'événement est imprévisible. Ce qui est le propre de toute rencontre véritable. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous n'avons pas prévu cette rencontre à l'avance. Le propre d'une rencontre, c'est d'être imprévisible. Une rencontre est un événement. Je fais un pas de plus sans justifier complètement, j'en ai bien conscience, ce que je vais dire, ici, pour l'instant en tout cas. Rencontrer quelqu'un, c'est l'aimer. Et l'amour n'est pas de l'ordre de la connaissance. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le connaître. Ce n'est pas... Si deux personnes s'aiment, ça ne veut pas dire que leur vécu de conscience coïncide. Pour le dire avec Blaise Pascal, l'ordre de l'amour n'est pas l'ordre de la connaissance. Donc Dieu n'est pas le nom d'un savoir sur le monde. Le vrai Dieu n'est pas le sujet censé savoir que dénoncent les psychanalystes. Dieu, c'est pas celui qui sait ce que nous sommes. Dieu, c'est pas celui qui sait ce qui va nous arriver. Dieu est parole. Donc Dieu est une parole qui s'adresse à moi et qui ouvre ainsi l'espace d'un dialogue. Et c'est de ce dialogue dont il va être question sous le nom de prière. Ce dialogue n'est pas de l'ordre de la connaissance. Lorsque je prie, je ne cherche pas à connaître Dieu. Si, peut-être qu'il y a une connaissance de Dieu dans la prière. Mais ce n'est pas ce que je veux dire en commençant. Lorsque je prie dans la prière, il ne s'agit pas d'abord de connaître Dieu, il ne s'agit pas d'un rapport de connaissance, mais d'un rapport d'amour, de désir, d'éros. La relation à Dieu, et c'est une thèse que je voudrais défendre, est une relation érotique. Alors, je sais bien qu'il est à la mode depuis 50 ans, c'est assez récent, de distinguer, parce qu'il y a un auteur qui est à l'origine de ça, de distinguer éros et agapé. Agapé, c'est l'amour, une forme d'amour moins forte, et qui serait l'amour qu'on aurait avec Dieu. Et puis, il y aurait Eros, l'amour que l'on aurait avec certaines personnes et qui engagerait le corps, l'amour charnel. Cette distinction est récente, elle n'est pas biblique, et d'ailleurs, elle est récusée par Benoît XVI dans son encyclique sur l'amour. Donc, je ne me situe pas dans cette distinction Eros-Agapé. Si nous avons quelque chose de commun avec Dieu, c'est l'amour. Et si nous avons une expérience de l'amour, c'est bien l'amour que nous échangeons les uns avec les autres, l'amour que nous faisons, comme nous disons, nous faisons l'amour, et l'amour engage le corps. Et d'ailleurs, la relation à Dieu et la prière, dans ces différentes formes, engagent aussi le corps. Et il suffit de lire le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament, ou de lire une page de Thérèse d'Avila pour se rendre compte que la relation à Dieu est une relation érotique. Donc, événement, rencontre, amour qui n'est pas de l'ordre du savoir et qui n'est pas dans l'horizon du monde ou dans l'horizon de l'être. Et la question pour laquelle vous êtes venu ce soir est redoutable dans sa simplicité. Pourquoi prier ? Non pas qu'est-ce que la prière, non pas seulement quel est cet acte du corps et de l'esprit que l'on nomme prier, mais pourquoi prier ? Prier, autrement dit, qu'est-ce que cela peut bien me faire ? Et c'est cette question que je voudrais prendre au sérieux ce soir. Car il s'agit bien de cela. Prier à Dieu, cela ne fait rien. On ne force pas la main à Dieu. On n'agit pas sur Dieu. Mais c'est bien à moi que cela fait quelque chose de prier. Donc la question est bien, prier, qu'est-ce que cela peut bien me faire ? Et je vais essayer d'apporter une réponse, je vais le faire en philosophe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de présupposer que vous ayez une expérience de la prière, mais de présupposer que vous êtes capable, par sympathie, par empathie, de vous mettre à la place de quelqu'un qui prie pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce cas-là. Cela dit, nous avons tous une expérience de la prière. En tout cas, vous avez tous une expérience de la prière. La prière, c'est une demande adressée à quelqu'un. Première définition qu'on peut donner, la prière, c'est une demande adressée à quelqu'un. Je vous en prie, comme nous disons. Je vous en prie. Vous êtes devant une porte et vous laissez la personne avec laquelle vous êtes passer devant vous. Je vous en prie, vous dites. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là ? Là, vous renoncez à vous affirmer. Vous renoncez à exister toujours plus, à être, pour laisser l'autre passer devant vous. Vous vous effacez devant l'autre pour laisser l'autre exister. Vous sortez de la logique de l'être, qui veut toujours et doit toujours être plus pour être, que ce soit une plante qui pousse, une plante où elle est écrasée par les autres, où elle pousse plus vite que les autres, et elle fait le vide autour d'elle parce qu'elle projette de l'ombre. Donc la plante existe parce qu'elle tend à exister plus, que ce soit une carrière dans une entreprise, si vous faites carrière, vous empêchez un autre de faire carrière, vous existez plus dans l'entreprise en prenant la place qui ne pourra pas être prise par un autre, ou que ce soit une entreprise peut pas se dire « moi je produis tel produit, c'est bien, j'ai mon marché », non, dans ce cas-là elle se fera écraser par une autre. Une entreprise existe parce qu'elle cherche à exister plus et à prendre des parts de marché. Logique de l'être qui consiste à être plus. Or, face à la logique de l'être, il y a la logique de l'amour. Et lorsque vous vous effacez pour laisser quelqu'un passer devant vous alors que vous êtes devant une porte et vous dites à quelqu'un « je vous en prie », vous sortez de la logique de l'être pour entrer dans la logique de l'amour. Raison merveilleuse et imprévue, dit Rimbaud dans Les Illuminations. L'amour, raison merveilleuse et imprévue. Et c'est cela la prière. Prier, c'est dépendre d'un autre. Prier, c'est dépendre d'un autre. Praecaria, mon latin qui a donné prière, a aussi donné le mot précaire. Le mot prière et le mot précaire ont la même étymologie. Prier, c'est dépendre d'un autre. On aurait une piste ici, je l'indique parce que je ne vais pas la suivre, une piste pour penser le thème évangélique, théologique et spirituel de l'enfance. Soyez comme des enfants, etc. Seul l'enfant, bref, le thème qu'on retrouve dans l'évangile de l'enfance, on a ici un point pour le bâtir. Mais c'est pas cette piste que je vais suivre ce soir. Donc la prière, dans son sens le plus général, c'est une relation d'ouverture à un autre. Prier, c'est s'adresser. S'adresser à Dieu, à des dieux, à des forces, à des esprits, à des ancêtres, à des saints, à des anges. C'est communiquer avec l'invisible, avec des forces dont les noms sont transmis de génération en génération et qui viennent d'un passé immémorial. Alors certes, il y a de la hiérarchie dans les contenus de la prière, plus ou moins de pureté, pour autant qu'elle relève d'une demande. On peut prier pour réussir un examen, obtenir une nouvelle maison, ou entraver les projets d'un autre. Là, ce seraient des prières qui seraient ce que Blaise Pascal appellerait l'ordre des corps, l'ordre social. Et puis, on peut demander des connaissances, demander des explications, l'ordre de la connaissance. Mais la prière peut relever, de manière plus pure, plus vraie, de l'ordre de l'amour, c'est-à-dire de la rencontre, de la relation, de la parole. Dans ce cas-là, la prière est gratuite. On ne prie pas pour obtenir un bienfait, mais on prie pour avoir une relation avec quelqu'un. Dans ce cas-là, si je puis dire, on met Dieu au centre, on ne met pas Dieu à la marge. Dans cette progression de la prière, on passe d'un Dieu qui serait un Dieu bouche-trou, on n'a pas la force, donc on demande à Dieu, on ne sait pas, donc on demande à Dieu, on passe de cette logique-là à, on pourrait dire, une logique de la gratuité, de la relation d'amour gratuit à Dieu. On ne lui demande rien. On a une relation d'amour, on fait l'amour, mais gratuitement. Car dans la modernité, de fait, c'est le cas, et ça oblige à repenser la prière, Dieu ne sert plus à rien. Vous connaissez l'histoire de Laplace, qui au début du 19e siècle, Laplace est physicien, produit un système du monde, et il présente son système du monde à Napoléon, et Napoléon lui demande « Et Dieu ?» dans tout ça. Et Laplace répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Depuis deux siècles, Dieu ne sert plus à rien dans l'ordre de la connaissance. De la même manière, Dieu ne sert plus à penser l'homme pour les sciences humaines. Je vais vite, hein. Et de la même manière, Dieu ne sert plus à fonder l'ordre social. Notre ordre social, aujourd'hui, n'est plus fondé sur Dieu. Dieu ne sert plus à rien. L'avantage, c'est que ça ouvre la possibilité d'une relation gratuite avec Dieu, d'une relation dans l'ordre de l'amour. Dieu n'est plus à la marge de l'existence, là où on ne comprend pas, là où on ne sait pas, là où on ne peut pas, mais Dieu est au centre, et Dieu est à chercher du côté des relations d'amitié que nous pouvons entretenir, des relations d'amour, ou Dieu a à voir avec la fête. D'ailleurs, la liturgie a fortement à voir avec la fête chez les chrétiens. Mais c'est une question que je ne vais peut-être pas aborder. Si on regarde, je voudrais d'abord qu'on se tourne vers la Bible dans un premier temps, et ensuite qu'on essaye de décrire ce qui a lieu dans la prière. Mais pour dire les choses clairement, je vais énoncer mes thèses, ce que je voudrais défendre comme proposition ce soir, que vous avez sur la deuxième page que vous avez entre les mains. Vous avez plusieurs choses dans cette page que j'ai mis qui permettaient, si vous arrivez à l'avance, de commencer à vous familiariser avec ce que je vais dire et puis d'avoir une trace de ce que j'ai dit. Donc c'est le deuxième bloc. Je vous propose trois thèses. Au milieu de la page, la prière est réponse à un appel qui la précède, à l'appel de Dieu, à Dieu qui s'adresse et adresse sa parole. Cette réponse à l'appel de Dieu se nomme la prière, et plus précisément la prière de louange à haute voix, qui est la forme de prière qui réalise le mieux ce qu'est la prière en ce concept. La forme la plus accomplie de la prière, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est la prière de louange à haute voix. Deuxième thèse, la prière est ce qui accomplit l'humanité de l'homme. La vocation de l'homme s'accomplit dans la louange. La prière est la manière adéquate de faire l'amour. Et troisième thèse, cette prière est adressée à Dieu, mais il n'y a pas à se représenter celui ou celle à qui cet acte de louange est adressé. Il est même exclu de se représenter celui ou celle à qui cette prière est adressée. ou plutôt s'il y a accès, ouverture à quelqu'un ou quelque chose, la distinction perd son sens lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est par l'acte même de prier. Je ne m'adresse pas à quelqu'un que je connaîtrais préalablement, je réponds à un appel qui précède cette réponse, et répondant à cet appel, j'entends l'appel et découvre celui qui appelle. La prière, c'est-à-dire l'adresse d'une parole portée par l'amour ou le désir, est le seul lieu de rencontre avec celui ou celle que l'on nomme Dieu. La thèse, c'est donc la suivante, on ne connaît Dieu que parce qu'on le prie. Il n'y a pas de savoir sur Dieu, il n'y a pas d'intimité avec Dieu, il n'y a pas de connaissance de Dieu en dehors de la prière. Et souvent, effectivement, quand les gens disent « moi, je ne crois pas en Dieu », ils ont souvent une idée toute faite de qui est Dieu. Ils savent qui est Dieu, ils se représentent un Dieu et ils sont déçus par ce Dieu. Et ce Dieu qu'ils se représentent, ils n'y croient pas. Mais souvent, j'ai envie de leur dire « moi non plus, je ne crois pas à ce Dieu-là ». Je ne crois pas au Dieu auquel tu ne crois pas. Bon. Parce que Dieu n'est pas, échappe à la représentation que l'on peut en avoir. On n'a pas d'idée de Dieu. Mais on peut entrer en relation avec lui dans la prière, c'est-à-dire dans l'amour. Dans la Bible, la prière est en relation directe avec les événements. On prie à partir de ce qui est arrivé et de ce qui arrive et pour qu'il arrive quelque chose. On l'a vu dans le texte que nous avons lu. On prie pour qu'il arrive quelque chose, pour que le salut soit donné par Dieu à la terre. Le contenu de la prière est pris dans la trame d'une histoire. Et les moments importants de l'histoire du peuple d'Israël sont marqués par la prière. Il y a une figure de priant dans l'Ancien Testament, grande figure de priant, modèle de celui qui prie et qui annoncera Jésus, c'est Moïse. Moïse intercède pour le peuple. Il appelle au secours. Vous connaissez le passage du chapitre 14 du livre de l'Exode, qu'on appelle habituellement le passage de la mer Rouge. Le peuple hébreu est sur une rive devant la mer. Et il voit à l'horizon Pharaon qui arrive avec ses chars et ses cavaliers. Il faut refaire une lecture symbolique. La mer, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole du chaos, de la mort, comme au début de la Bible. Au commencement, il y a un grand chaos, une grande masse d'eau chaotique. Et puis, il y a Pharaon qui arrive, l'Égypte qui arrive. L'Égypte qui est aussi le symbole de la mort, dans l'Ancien Testament. Donc on a la mort de toutes parts, la mort devant et la mort derrière. Et à ce moment-là, le peuple s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Appelle Dieu au secours. Et Dieu c'est qui ? Dieu c'est la figure de celui qui ouvre un passage dans la mer. Lorsque plus rien n'est possible à échelle humaine, si je puis dire, Dieu est celui qui va ouvrir un passage dans la mer et permettre au peuple de se sauver, de vivre. Voilà. Donc Dieu, c'est la figure de celui qui ouvre de la vie, qui fait surgir de la vie alors que la mort est de toutes parts. Et Dieu ouvre un passage dans la mer pour que le peuple passe. Alors bien sûr, ce passage dans la mer qui s'ouvre, c'est une autre histoire qu'on va pas poursuivre plus loin, mais ce passage dans la mer qui s'ouvre, deux parois d'eau qui s'écartent pour laisser le peuple passer, ça, bien sûr, c'est la métaphore explicite d'une naissance. Lorsqu'un bébé naît et accède à la vie, c'est bien deux parois d'eau qui s'écartent, deux parois humides qui s'écartent pour laisser un bébé sortir du ventre de la mère. Donc la métaphore du passage de la mer Rouge parle, est explicite. Et Dieu, c'est lui qui trace un chemin dans le chaos de la mer, de la même manière qu'au début de la Genèse, Dieu est celui qui sépare les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, la lumière des ténèbres, la terre ferme de la mer, pour permettre un espace pour que la vie croît, se développe. Donc Dieu est celui qui fait vivre, Dieu est celui qui donne un espace pour vivre en séparant. Et ça, séparer, c'est ce que la Bible appelle créer. Bon. D'autres passages Un grand nombre d'autres passages permettraient de poursuivre ce thème, y compris avec Moïse. Moïse supplie Dieu après l'épisode du veau d'or, au livre de l'Exode, chapitre 32, pour que Dieu pardonne à son peuple, cette nation est ton peuple, et Dieu est un Dieu qui sauve son peuple. À la prière, dans l'Ancien Testament, s'oppose une anti-prière, si je puis dire, qui en est l'envers. C'est celle qui consiste à tenter Dieu, à mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu se plaint lorsque le peuple murmure dans le désert, en disant « Attention, ne me mets pas à l'épreuve, ne me force pas à intervenir. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, répond Jésus au Satan qui est venu le tenter dans le désert. » Jésus qui cite le Deutéronome. Donc pourquoi prier ? Pourquoi prier ? Prier pour solliciter un secours extérieur lorsque plus rien n'est possible. Dieu est le nom de celui qui sauve, c'est-à-dire qui ouvre une issue qui fait vivre. La vie qui advient ouvre la bouche de celui qui en bénéficie et fait sortir un cri de louange. Après le passage de la mer, on a ce cri de louange du peuple. Il a jeté à la mer cheval et cavalier, chapitre 15 de l'Exode. Cri de louange que prononce Marie dans le récit de Luc, qu'on appelle le Magnificat, ou encore le cantique d'Anne, qui sert de modèle, qui a servi à Luc de modèle pour composer son Magnificat, mis dans la bouche de Marie. Ce que nous avons dans notre première page, cantique d'Anne, donc c'est le chapitre 2, c'est la suite du texte que nous avons lu en commençant. Anne pria et dit, mon cœur exulte en Dieu, ma corne s'élève en Dieu, ma bouche est large, ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Point de saint comme le Seigneur, car il n'y a personne excepté toi. Point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu plein de savoir, et par lui les actions sont pesées. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre dans les enfers et en fait remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde, il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Le Seigneur, ses ennemis sont brisés, le Très-Haut tonne dans les cieux. Dieu juge les confins de la terre, il donne la force à son roi, il élève la corne de son Messie, de son Christ. Elkana partit pour Rama dans sa maison, mais l'enfant était au service du Seigneur, en présence du prêtre Élie. Donc, prier, c'est appeler au secours, et lorsque le secours de Dieu se manifeste, le corps est envahi par la joie qui suscite un cri de louange, comme prière à haute voix. Dans les premiers écrits chrétiens, le Nouveau Testament, donc, il est souvent question de la prière. D'abord, les évangiles rappellent que Jésus prie, de la même manière que les prophètes prient, Amos, Samuel, Jérémie, sont des grandes figures de priants, Jésus prie. Et c'est sur la manière de prier que porte son enseignement. Quand vous priez, dites, dit Jésus, quand vous priez, dites. Et suit ce texte, que l'on désigne en français par les premiers mots, le pater ou le notre père, et que rapportent, dans deux versions un peu différentes, Matthieu et Luc. Ce qui surprend dans la prière de Jésus, c'est l'intimité de l'invocation, l'intimité de l'adresse, père, et également la reconnaissance d'une filiation. Celui qui prie est constitué par l'acte de prier en position de fils. Cette intimité, on l'avait déjà dans les psaumes. Cette intimité, on l'a lorsque Saint Paul nous dit « Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Papa ». L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » Épître aux Romains, chapitre 8. Et puis dans l'épître aux Galates, chapitre 4. « Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père » ou « Papa ». « Abba », il y a un côté intime. « Ainsi n'es-tu plus esclave, mais fils, fils, et donc héritier de par Dieu. » Vous l'avez peut-être noté au passage, mais l'écart entre ces deux propositions, ces deux citations est significatif. Dans un cas, c'est l'homme qui s'écrit « Abba, Père », et dans l'autre, ce même acte est rapporté à l'esprit. Toutefois, dans les deux formulations, l'acte de prier est don de Dieu, c'est un don de Dieu. Il y a échange des voix entre Dieu qui prend la voix de l'homme et l'homme qui prend la voix de Dieu. Il y a alliance entre l'homme et l'esprit dans la prière, lorsque cette prière s'adresse au Père pour lui dire « Abba ». Donc la prière, c'est ce qui fait engendrer, ce qui donne la vie, je l'ai dit tout à l'heure, ici on fait un pas de plus, c'est ce qui permet de devenir fils, donc qui engendre à la vie divine. Je ne reviendrai pas plus sur ce thème de la filiation ou de l'engendrement dans la vie divine. Il y a un philosophe qui a fait ça de manière magistrale, c'est Michel Henry. De cette adresse découle l'attitude de celui qui prie, un acte de confiance. La confiance est l'attitude de celui qui prie et qui se fie à Dieu. Verbe batar en hébreu, se fier, avoir confiance. L'acte de prier situe celui qui prie dans l'axe du dessein de Dieu. Celui qui prie se situe dans l'histoire, il demande à Dieu que l'histoire se passe selon la volonté de Dieu. Il demande à Dieu son nom, sa volonté et son règne dans le Notre Père. Ou encore, Jésus au mont des Oliviers s'adresse à son Père en disant « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et on a là quelque chose d'intéressant, c'est que la prière de Jésus est une prière tâtonnante quant à son objet. Jésus ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il veut, mais il ne veut pas. Il veut quelque chose, mais il veut ce que Dieu veut aussi. On a là un conflit qui est manifesté par le texte quant à l'objet de la prière de Jésus. En effet, nous prions, mais nous ne savons pas exactement ce que nous voulons lorsque nous prions. Nous demandons, mais nous ne savons pas exactement ce que nous demandons. Et toute l'éducation que Jésus va faire de ses disciples, en particulier dans l'évangile de Jean, ce sera pour apprendre à ses disciples que ce que l'on demande dans la prière, c'est Dieu. C'est le don de Dieu. C'est la vie divine. C'est ce que les théologiens appellent l'autocommunication de Dieu. C'est l'entrée dans la vie de Dieu, dans la filiation. C'est cela qu'il faut vouloir et demander, dit Jésus. Il ne s'agit pas de demander autre chose que la vie, c'est-à-dire de devenir fils de Dieu. Autre élément que nous apprend parmi beaucoup d'autres, mais un autre élément que nous apprend le Nouveau Testament lorsqu'on essaye de lire le texte pour voir ce que cela peut bien nous dire de ce que peut vouloir dire prier, on remarque que celui qui prie, Jésus, se met à l'écart. Jésus va à l'écart pour prier. je vous donne deux références parmi beaucoup d'autres, Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 23, ou Évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. Prier Dieu se fait dans le secret. Prier Dieu, c'est dans le secret, et prier Dieu, ce n'est pas entasser et rabâcher des paroles. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 6 et 7. Il ne s'agit pas d'entasser des paroles. Demander pardon et pardonner sont les conditions de la prière. Autre élément important. Prier, c'est demander pardon et pardonner. Cela veut dire que prier, y compris lorsque la prière est individuelle, elle n'est pas solitaire, mais elle est toujours fraternelle. Prier, c'est toujours se situer dans une communauté. On prie dans une communauté. Les Juifs, qui est le modèle de l'Église, de la communauté, du peuple, les Juifs prient en communauté. Les chrétiens, même lorsqu'ils prient tout seuls, à l'écart, prient en communauté. Donc à la fois, tension entre la solitude, il ne s'agit pas de se montrer, il ne s'agit pas d'apparaître socialement lorsque l'on prie, la solitude, l'écart, le secret, mais en même temps, la communauté, la fraternité. Je reprends les choses maintenant par un autre bout. Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Qu'est-ce que c'est que la pensée biblique ? La Bible, je crois que la Bible s'oppose à, on va dire comme ça, enfin, s'oppose à la Grèce. La pensée biblique s'oppose à la pensée grecque. La pensée grecque, c'est une connaissance de la nature, du cosmos. Citation, il y en aurait beaucoup d'autres, d'Anaxagore, un des premiers philosophes grecs, qui dit que connaître, faire de la philosophie, faire de la science, c'est faire du ciel et de l'ordre de la totalité du monde l'objet de sa spéculation. Or, la pensée biblique n'est pas d'essence métaphysique. Elle ne se fonde pas sur un ordre du monde ou sur un cosmos. Elle naît précisément, cette pensée biblique, elle naît, du verbe naître, elle naît au creux d'une expérience de destruction, de la perte du cosmos comme fondement d'un ordre. Elle naît, comme dit le psaume, au bord des fleuves de Babylone, dans l'exil. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabucodonosor, roi de Babylone, détruit le temple de Jérusalem, déporte la population, raye de la carte le royaume des Juifs. C'est l'exil. Et la foi biblique, elle naît dans et de l'histoire, elle est historique et eschatologique, elle est tournée vers la fin, vers une fin de l'histoire. Elle espère la victoire de la vie, là où domine la violence, la cruauté et la mort. Donc la foi biblique, la prière chrétienne, biblique, elle naît au cœur même de la violence, au cœur même de l'expérience où plus rien ne tient debout. C'est dans l'exil que se fait jour la foi au Dieu créateur et que surgit l'idée de création. L'idée de création qui n'est pas un concept métaphysique, qui n'est pas le cosmos, qui n'est pas la nature, la physis, comme disent les Grecs. C'est au moment de l'exil, donc, au moment où s'effondre l'ordre, au moment où dans nos vies aussi tout s'effondre, c'est à ce moment-là que surgit la prière, surgit la pensée biblique, surgit la prière, surgit l'acte de se tourner vers quelqu'un qui appelle. Donc, j'aurais dit une fois, encore une fois, le biblique ne pense pas la création en termes d'ordre immuable, mais sur fond de violence, de destruction et de mort. La création est alors une parole qui réconcilie, c'est ça la création, c'est une parole qui réconcilie, qui accomplit une parole d'alliance. C'est vrai dans le passage de la mer rouge, j'en ai parlé il y a un instant, c'est vrai dans les récits de création du début de la Bible, C'est vrai également, j'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu est une parole qui met de l'ordre, qui réconcilie, qui ouvre un passage vers la vie. Donc Dieu, c'est celui qui domine les forces de chaos. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, par exemple, on nous raconte l'histoire d'une tempête apaisée. Jésus qui domine la tempête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette histoire? Que ça a eu lieu ou pas, c'est pas le problème. Si cette histoire nous a été racontée, c'est qu'elle a un sens. Si Jésus domine la tempête et calme la tempête, récit de la tempête apaisée, ça veut nous dire que Jésus est Dieu, parce que Jésus est celui qui domine les forces du chaos, qui domine la masse des eaux. La masse des eaux représentant, je l'ai dit tout à l'heure, le mal, l'absence de vie dans la Bible. Donc face, alors j'ai bien conscience que je soutiens une thèse en disant ça, et que d'autres thèses sont possibles, mais c'est la mienne. Face au Dieu des philosophes et des savants, que ce soit un Dieu qui explique le monde, premier moteur, ou un Dieu qui est l'origine de tout, face à ce Dieu-là, il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui appelle, faisant advenir ainsi un « tu ». Dieu est un « je » qui s'adresse à quelqu'un, qui lui dit « tu », et qui ouvre l'espace d'une réponse et d'un dialogue, c'est-à-dire de la parole, du récit, de l'histoire, de la subjectivité et de la prière. Et m'est venu un rapprochement ce matin en relisant mes notes pour préparer cette soirée. Le rapprochement étant le suivant, ceux qui étaient là à la première soirée, nous avons parlé d'un théologien qui s'appelle Karl Barth. Karl Barth, théologien de la parole, théologien qui, alors que la théologie s'enlisait depuis plusieurs siècles, Karl Barth est celui qui a réveillé la théologie, qui a impulsé le renouveau de la théologie au XXe siècle. Karl Barth est un théologien de langue allemande réformé, protestant réformé. Tiens, à propos d'ailleurs, petite histoire pour marquer une pause. On a demandé au moment du concile au pape Jean XXIII quel était pour lui le plus grand théologien du XXe siècle et celui qui avait permis le renouveau conciliaire et qui avait permis ce qui était en train de d'émerger au concile. Et Jean XXIII a répondu, bien évidemment, le plus grand théologien du XXe siècle, c'est Karl Barth. Et lorsqu'on a rapporté à Karl Barth, théologien protestant, cette parole, Karl Barth a dit, je commence à croire à l'infaillibilité pontificale. Voilà. Donc, Barth réveille la théologie et à un moment précis de l'histoire de l'Occident, au moment de la Première Guerre mondiale. L'expérience des tranchées. L'expérience des tranchées de la Première Guerre mondiale est cruciale en théologie, dans l'histoire de la théologie. Et de la même manière que le peuple hébreu répond à la parole de Dieu, entend la parole de Dieu, que la pensée biblique s'élabore dans l'expérience de l'exil, de la violence et du chaos, de la même manière, la théologie chrétienne retrouve une vigueur, une vitalité, se ressente sur la parole de Dieu dans l'expérience du chaos et de la violence de la Première Guerre mondiale. Donc là, on a un parallèle que j'ai trouvé intéressant. Puis vous savez que Barth aura un grand disciple théologien catholique qui s'appelle Hans-Urs von Balthasar. Et qu'aujourd'hui, Hans-Urs von Balthasar a une stature théologique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il est mort en 88, si je ne me trompe. Mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il paraisse un livre sur Balthasar en allemand, mais aussi en français ou en anglais. Auteur aujourd'hui extrêmement travaillé. Et si je vous dis ce que je vous dis ce soir, ou si j'avance les thèses que j'avance, c'est en partie parce que je les dois à Balthasar. Dieu, c'est l'autre qui me parle et à qui je peux m'adresser. Dieu, c'est la possibilité d'un appel et d'une réponse. Et prier, c'est répondre à la parole de Dieu qui appelle. Car la parole de Dieu appelle une réponse, appelle notre parole, requiert notre voix. Toute parole humaine est une réponse à d'autres paroles qui la précèdent. Thèse que défendent les psychanalystes et que défendent les théologiens. Toute parole est une réponse à d'autres paroles qui la précèdent. Et toute parole est alors une parole qui s'affronte à d'autres paroles. Cette réponse donnée à l'appel de la parole de Dieu n'est pas paisible, ou ne se présente pas immédiatement comme paisible. C'est une lutte avec Dieu, une joute, un corps à corps avec la parole de Dieu. C'est le combat de Jacob au gué de Yabok, dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Jacob arrive au bord d'un affluent du Jourdain, le Yabok, et là il se bat avec Dieu, nous dit le texte de la Genèse. Il y a un affrontement entre Jacob et Dieu. Ou encore saint Paul, « Luttez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi. » Dans l'Épître aux Romains. « Luttez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi. » Car Dieu est toujours plus grand que nous. Nous, dans la prière, nous nous affrontons à plus fort que nous. Et notre voix, notre parole est destituée dans sa perfection supposée lorsqu'elle se confronte, s'affronte à Dieu, à la découverte et la confession de la sainteté de Dieu qui s'adresse à nous, qui nous appelle. C'est une parole blessée de l'homme qui répond à la parole de Dieu. Et c'est cette parole blessée que l'on appelle la prière. Jacob, dans l'histoire que j'évoquais, part blessé, nous dit le texte de la Genèse. Il est blessé à la hanche. Donc, la prière, c'est un combat. La prière, c'est un combat entre nous-mêmes, qui nous découvrons destitués de notre position de sujet qui domine, pour nous affronter à un autre, pour nous lire, nous interpréter, nous comprendre à partir d'un autre, qui est, oui, plus fort, plus grand, plus saint que nous. Combat spirituel aussi brutal que la bataille d'hommes, dit Rimbaud à la fin de la saison en enfer. Combat spirituel aussi brutal que la bataille d'hommes. Je dis de la prière qui s'adresse à Dieu, je crois, peut se dire aussi de la relation d'amour entre deux êtres humains. Enfin, les choses sont quand même comparables. Hein. Alors. Lorsque je parle, je m'adresse à quelqu'un, je me manifeste à lui. Ce qui est vrai dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Lorsque je m'adresse à Dieu, je me manifeste devant Dieu. La prière, c'est quoi ? C'est une manifestation de moi devant Dieu. Moi devant Dieu invisible. Mais il y a bien une différence entre se parler à soi-même et s'adresser à Dieu. On pourrait dire que, d'un point de vue extérieur, il n'y a pas de différence. Hein, c'est l'histoire du prêtre Élie qui ne comprend pas que Anne est en train de prier et qui croit qu'elle est ivre. Bon, de l'extérieur, il n'y a pas de différence. Mais dans l'attitude de celui qui prie, il y a bien une différence entre se parler à soi-même, je me parle à moi-même, et je parle à Dieu. Donc, il y a une attitude différente. Prier, c'est bien s'adresser à quelqu'un d'autre, se manifester devant quelqu'un d'autre. La fonction de la parole dans la prière n'est pas de communiquer une information ou de transmettre une connaissance à un Dieu, puisque Dieu sait tout, Dieu est omniscient, à quoi ça sert de lui parler? Mais justement, la prière, ce n'est pas d'abord transmettre une information à Dieu omniscient, qui n'a rien à apprendre de nous, qui n'a rien à apprendre de nos plus secrets désirs. La prière n'affecte pas Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'agit pas sur Dieu, y compris au point de vue de la connaissance, la prière n'apprend rien à Dieu, mais la prière m'affecte moi. Je me découvre moi, et je fais une expérience de moi lorsque je prie et lorsque je suis devant Dieu. Et ça, je crois qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour le comprendre. Tout le monde sait que, tout le monde conçoit que l'attitude n'est pas la même lorsqu'on se parle à soi ou lorsqu'on vise Dieu. Donc la prière, on peut réfléchir à la prière sans poser l'existence de Dieu. Il ne s'agit pas de demander si Dieu existe ou pas, encore une fois. N'importe qui comprend que ce qui se passe dans la prière n'est pas la même chose que ce qui se, pour quelqu'un qui prie, n'est pas la même chose que lorsque l'on s'adresse à soi-même. La prière me manifeste à Dieu, mais me manifeste d'abord à moi-même. La prière dit inséparablement quelque chose de moi et quelque chose de Dieu. La prière de demande, mais c'est le cas de toute prière, manifeste cette reconnaissance en l'autre de l'origine de tout don, y compris de moi qui m'adresse à lui. Lorsque je demande quelque chose à Dieu, je n'apprends rien à Dieu par ma demande, mais demandant à Dieu, je reconnais Dieu comme étant la source de ma vie, la source de mon être, la source de celui qui me fait vivre. Je me reconnais traversé par un autre. Nous parlons, priant, en nous adressant à un autre et en nous tournant vers lui, mais c'est nous que cette parole enseigne, et c'est sur nous qu'elle agit. La parole affecte et modifie celui qui prie, et non le destinataire de la prière, et lui révèle une blessure et une parole créatrice plus originaire. La prière s'adresse à Dieu, mais elle n'a pas besoin de susciter l'attention de Dieu, qui est toujours déjà à l'écoute de notre voix et l'attend. Notre parole dans la prière est mise à nu. Dans la prière, notre parole est mise à nu dans tout ce qu'elle cherche à cacher, à excuser, à justifier, à obtenir vraiment. On ne triche pas devant Dieu. Quand on prie, on sait qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Celui qui prie Dieu sait que ça ne sert à rien de raconter des choses à Dieu qui sont fausses, puisque Dieu sait tout. Donc la prière est une mise à nu de notre propre parole. La prière permet de nous découvrir nous-mêmes, de nous découvrir dans notre nudité. La prière n'agit pas sur Dieu, elle agit sur nous. Elle nous dénude, la prière. Et la réponse de Dieu devance toujours déjà notre demande. Parce que Dieu est toujours déjà à l'écoute lorsqu'on s'adresse à lui. La prière n'est pas là, en tout cas dans sa forme la plus adéquate, la prière n'est pas là pour susciter l'attention de Dieu. Dieu est toujours déjà là pour écouter lorsqu'on s'adresse à lui. Dieu nous a toujours déjà appelés et Dieu écoute toujours déjà. Donc la prière n'est pas un appel, la prière est toujours en position de réponse à Dieu qui est toujours déjà là pour écouter notre prière. Citation, un auteur qui s'appelle Jean-Louis Chrétien. Le paradoxe théologique selon lequel toute prière véritable est d'une façon ou d'une autre exaucée a un point d'appui dans le phénomène lui-même. Celui qui prie parle pour une écoute qui toujours déjà devance sa parole. prière vocale. La prière est cet acte qui consiste à adresser la parole de Dieu. On pourrait me rétorquer qu'il y a d'autres formes de prière. L'oraison, la contemplation, la lectio divina, que sais-je. Or, je soutiens que la prière vocale manifeste l'essence de l'acte de prier. Et un philosophe tout à fait athée ne s'y trompe pas lorsqu'il affirme « La prière à haute voix n'est que la prière qui manifeste son essence. » C'est Feuerbach. Saint Bonaventure insiste sur la centralité de la parole dans la prière. Je cite, « Dieu a voulu que nous parlions pas seulement, Dieu a voulu que nous prions pas seulement mentalement, mais aussi vocalement pour exciter notre cœur par des paroles et pour recueillir nos pensées par le sens des mots. » En effet, dans la prière chrétienne, la voix ne saurait être séparée d'une intention. L'oraison vocale se double toujours d'une oraison mentale. Les deux vont de pair. Il ne s'agit pas de professer des mots sans y penser. Solo con la boca, comme dit Thérèse d'Avila. Il ne s'agit pas de prier uniquement avec la bouche, mais Jésus le disait déjà. Il ne s'agit pas de rabâcher des paroles dans la prière, mais il s'agit d'exprimer par la parole l'intention du cœur. Liaison entre l'intention et la proclamation à haute voix des paroles. Même si quand on prie, et lorsque les religieux prient à l'office, avec l'habitude, on peut réciter intégralement le Notre Père, le Magnificat, etc., en pensant intégralement à autre chose. Je peux vous témoigner. Voilà. On peut être assis, se lever, s'incliner, se relever, s'asseoir, sans même voir ce que l'on fait, parce qu'avec l'habitude, on pense intégralement à autre chose, et le corps, en fait, agit spontanément. Quelqu'un à l'extérieur ne voit pas qu'on pense intégralement à autre chose. Mais l'habitude fait que on peut prier en pensant intégralement à autre chose. Donc, liaison dans la prière véritable entre l'intention du cœur et la proclamation à haute voix, parce que la prière à haute voix est une prière qui rassemble les pensées, qui les concentre dans l'acte de dire et de s'adresser. Claudel dit que la prière vocale est une sanctification, somme toute, de notre respiration. Et par là, dit-il, d'une part un moyen de refouler les pensées vaines, de l'autre une purification par le rythme du bouillonnement, et de l'autre une purification par le rythme du bouillonnement désordonné de notre imagination, et enfin un amorçage de notre sensibilité et de notre attention. La prière vocale est une prière qui engage l'ensemble du corps, met le corps devant Dieu, présente le corps à Dieu et purifie les pensées par le rythme de cette prière. Car la prière engage le corps. Je vais terminer là-dessus, puisque je vois que le temps passe et que je voudrais que nous ayons le temps de discuter. Je voudrais terminer là-dessus, d'abord en vous citant une référence qui est un très beau texte d'un auteur qui m'inspire, un grand auteur qui s'appelle Michel Le Certeau et qui a écrit un livre plus lisible que les autres qui s'appelle « La faiblesse de croire » dans lequel le premier texte repris s'appelle « L'homme en prière, cet arbre de gestes ». L'homme en prière, cet arbre de gestes. Car en effet, chaque religion met en œuvre un ensemble de pratiques qui instituent une comparution et incarnent l'acte de présence devant Dieu. Cet acte de présence devant Dieu met en jeu l'homme tout entier et donc son corps. C'est avec son corps et de tout son corps que l'on se tourne vers l'invisible. Cette mise en présence de l'invisible et à l'invisible, qu'est la prière, concerne le corps, sa tenue, vestimentaire, parfois, sa posture, sa gestuelle, et peut comporter, par exemple, des exigences de purification corporelle, peut également concerner des exigences où l'on couvre, où l'on cache certaines parties du corps, enlever sa casquette lorsqu'on rentre dans une église, mettre sa casquette lorsqu'on rentre dans une synagogue. Des exigences qui concernent l'orientation et la position de la prière, élever les mains, se lever, s'agenouiller, gestes d'adoration, mains jointes, bras étendus, ou même des danses. Quelques références bibliques. On lève les mains vers le ciel, premier livre des rois, chapitre 8, verset 22, pour l'Ancien Testament, ou première lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 8. Ou alors on se met à genoux, premier livre des rois, chapitre 8, verset 54, pour l'Ancien Testament, ou livre des Actes, chapitre 9, verset 40, pour le Nouveau Testament. La prière vocale fait donc du corps un élément essentiel de la prière, parce que il n'y a pas de voix sans corps. C'est du corps qu'il est question lorsqu'on évoque la voix. Saint Thomas d'Aquin dit de la prière vocale qu'elle est nécessaire pour, je cite, « pour que l'homme serve Dieu selon tout ce qu'il tient de Dieu, c'est-à-dire non seulement avec son esprit, mais aussi avec son corps. » La prière est inséparablement spirituelle et charnelle. Elle passe par la voix. La voix, c'est la frontière entre le spirituel et le charnel. La détresse, la joie, le besoin, la gratitude se disent, se clament à haute voix.